Yann, mon plaisir. Bonjour.
Bonjour.
On se retrouve pour une deuxième fois cette semaine. Hein. C'est vous qui faites l'actualité.
Je la fais avec vous, puisque nous co-construisons, ce qui est mon projet d'ailleurs.
Oui, alors, c'est vrai, effectivement, nous co-construisons, puisque vous faites l'actualité, moi je la reprends, c'est bien ça.
Oui, on peut voir ça comme ça, mais si vous ne reprenez pas l'actualité, si vous n'apportez pas à ceux qui n'ont pas pu venir lors des réunions les éléments du débat, il n'y aura pas de débat, il n'y aura pas de discussion, et sans débat, sans discussion, il est difficile de faire bouger les choses.
Yann, mon plaisir, vous avez, dans le cadre de cette réunion, à mon avis, vous avez tenu tribune, vous avez présenté ce que vous avez fait, à la fois sur le patrimoine, à la fois sur la revitalisation, tous les dossiers que vous faites ressortir en ce moment. Mais vous avez tenu à faire une intervention qui était une intervention de fond, qui était à la fois celle de l'identité et également la place des politiques publiques, en particulier de celle de l'État. Alors je vous propose qu'on commence par la question des politiques publiques et en particulier de l'orchestration que fait aujourd'hui le représentant de l'État, qui est Monsieur le Préfet.
Monsieur le Préfet fait un excellent travail dans les limites des moyens et de la mission qui lui ont été confiés. Ce n'est pas le Préfet qui définit la ligne politique. Ce sont les politiques, donc le gouvernement, le Premier ministre, le ministre des Outre-mer, et le Préfet, il met en œuvre les éléments de politique qu'on lui demande de mettre en œuvre. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les préfets ne font pas de politique, en principe, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle également les préfets peuvent servir plusieurs politiques. Donc ce sont des techniciens, au sens noble du terme, et donc ils mettent en œuvre.
Donc ça veut dire que pour vous, la difficulté vient non pas des hommes, mais du cadre.
La difficulté vient du cadre, sans doute, mais aussi des hommes. Le gouvernement qui est en place actuellement a une politique dont, d'ailleurs, j'approuve l'essentiel des grandes lignes. Mais en ce qui concerne en particulier l'outre-mer, je trouve qu'ils sont en deçà de la main.
En deçà ou pas dans le propos?
Non, ils font un peu comme les autres, ils sont dans la routine. L'outre-mer, finalement, c'est une variable d'ajustement très souvent. L'outre-mer, c'est un fatras de problèmes. Et donc, je dirais que l'outre-mer, c'est pour les différents gouvernements, j'ai l'impression que l'outre-mer, c'est une patate chaude qu'ils se refilent les uns les autres en disant, faisons-en le moins possible et attendons de refiler le truc au suivant.
Bon, alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Si vous considérez ça, ça veut dire que vous estimez que l'outre-mer doit se prendre en main. C'est ça que ça veut dire.
Comme tous les gens de l'outre-mer, j'estime que l'outre-mer doit se prendre en main. Mais l'outre-mer ne peut pas se prendre en main avec le système que nous avons, le niveau de vie que nous avons, avec l'organisation sociale que nous avons, avec les acquis sociaux que nous avons. L'outre-mer ne peut pas se prendre en main hors du cadre national. Parce que le système que nous avons nous interdit finalement, à moins de changer complètement de système, de sortir du cadre national. Et donc l'outre-mer doit s'assumer au sein de la République et l'outre-mer doit exiger de la République qu'elle lui donne sa place. Moi, c'est comme ça que je vois les choses, mais ceci dit sans passion. Je suis un républicain. Je suis bien dans ma nationalité de Français, mais j'ai des exigences d'originaire de l'outre-mer qui sont singulières. Elles sont singulières par rapport aux exigences nationales. Regardez ce qui se passe dans les rues aujourd'hui. Eh bien, ce que les gens réclament aujourd'hui, imaginez-vous qu'ils réclament plus de travail. Nous, on a trois fois plus de chômage. Ils réclament plus de pouvoir d'achat. Notre pouvoir d'achat est plus bas. Etc. etc. Donc.
Et vous avez argumenté votre pensée autour d'un concept sur lequel vous dites il y a le cadre, il y a tout ça. Comme on ne peut pas sortir de ce cadre-là, encore qu'on nous l'avait proposé avec le 74 et compagnie, et que les Martiniquais, vous avez bien constaté qu'ils n'ont pas voulu de ce système. Mm-hmm. La question, c'est surtout, Yann Monplaisir, comment on fait ? Je vais préciser ma question. Aujourd'hui, vous connaissez le poids politique de la CTM, c'est 1,2 milliard. Vous connaissez aussi le volant d'affaires en Martinique. C'est beaucoup plus qu'un milliard. On parle entre 80 et 100 milliards. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, est-ce que vraiment, au-delà des difficultés de structure qu'il y aurait entre l'exécutif et compagnie, enfin les petits détails là, est-ce que vous pensez vraiment aujourd'hui que les politiques ont les leviers pour faire bouger les choses avec, le, disons, les montants qu'ils ont à organiser qui ne sont, je le répète, que 2 milliards d'euros quand l'épargne locale martiniquaise est de 10 milliards.
Ils n'ont pas tous les leviers, les politiques, mais ils ont des leviers. Et surtout, je pense qu'une de leurs responsabilités est de tracer une voie, de donner des directions, d'expliquer et de traduire une vision, et à partir de tout cela, de l'intégrer dans le réel, c'est-à-dire la limite liée aux moyens, mais également le défi qui consiste à convaincre, à partir du moment où on peut montrer les limites de ce que l'on fait, parce qu'on le fait avec sérieux, parce qu'on le fait avec cette vision que j'appelle de mes voeux et que nous essayons de mettre en œuvre, on peut expliquer à l'État, parce que l'État a un rôle aussi, nous avons un rôle, mais l'État a un rôle, que nous entendons qu'ils jouent leur rôle d'une certaine manière et que nous ne partageons pas nous ne sommes pas d'accord, pour ne pas dire partageons pas, nous ne sommes pas d'accord avec la politique qui est mise en œuvre parce que nous considérons qu'elle est insuffisante pour assurer le développement au niveau où il devrait l'être pour répondre aux exigences de l'emploi.
Alors, il y a de mon plaisir. On l'exige, on demande, ce qui est normal puisque le cadre est français et on est français. On s'aperçoit que les résultats ne sont pas ce qu'il faut. C'est ce que vous avez expliqué aussi ce matin, même si vous expliquez que chacun y va de sa contribution. Et pourtant, c'est pour ça que je vous repose la question. On fait quoi ? Puisqu'en réalité, on n'avance pas. On se rend bien compte que les résultats ne sont pas bons. Que
non,
le cadre... Alors qu'est-ce qu'on fait ?
Mais non, on ne peut pas dire ça comme ça. On peut pas dire
je donne un exemple. Vous avez pris, vous avez illustré votre propos ce matin avec le cas de l'hôtellerie dont vous êtes l'un des capitaines d'industrie en Martinique. Vous expliquez que pour l'hôtellerie, il faut un certain nombre de cadres en dehors des éléments de base qui seraient une baisse des coûts du travail qui pourrait vous amener une compétitivité relative aux autres pays de la Caraïbe. Et vous dites sur ce point, quand on a fait nos calculs après les assises de l'outre-mer, le système qui est mis en place ne coûte plus cher. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on n'est pas entendu.
Ça veut dire qu'on n'est pas entendu, ça veut dire que la politique qui est proposée aujourd'hui n'est pas celle qui convient. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut abandonner. Ce n'est pas pour autant qu'il soit, je dirais, bon d'imaginer de pouvoir renoncer. Il faut continuer. Mais la vie est un combat, il faut continuer.
Yann, mon plaisir. Nous sommes d'accord, continuons. Et l'objectif, puisque vous parlez de co-construction, d'information, je suis d'accord. Vous avez les solutions, moi j'ai le micro. Je vous l'emmène, on co-construit pour nos auditeurs les solutions. Prenons ce cas-là sur la question de la compétitivité du coût du travail. Vous parlez notamment du secteur des services qui sont liés au tourisme. Mais vous savez que dans le BTP, c'est la même chose avec la prime de panier. Vous êtes vous-même actionnaire d'entreprise dans le secteur du BTP. Et vous savez aussi qu'il y a ce problème de prime de panier qui fait qu'on alourdit considérablement les éléments. Et le BTP, dans une certaine mesure, c'est aussi du service, même si ça part de l'artisanat. Alors, sur ces éléments-là, avec tout ce qui a déjà été fait, les remises de ceci, les remises de cela, qu'est-ce qu'il faudrait arriver à faire sur les salaires pour les rendre encore plus compétitifs, hors baisser ses salaires?
Déjà, si vous voulez, il faut partir du principe que si vous baissez les salaires dans un secteur qui n'est pas soumis à une concurrence extérieure, au plus, l'effet économique que vous pouvez en espérer, c'est une baisse des prix. Si cette baisse des coûts est effectivement répercuté dans les prix, ce qui n'est pas toujours le cas parce que la concurrence est quelquefois biaisée et vous n'avez jamais vu quelqu'un qui n'est pas soumis à une concurrence baisser ses prix si ça n'est pas nécessaire. D'accord.
d'accord, mais là, bon, on est
bien d'accord, c'est hors cadre de baisser les salaires.
Non, mais je ne parle pas des salaires, je parle des prix. Je parle des prix. Je veux donc dire par là qu'il n'est pas nécessaire, et je dirais pas pertinent, de comparer un secteur comme le bâtiment à l'hôtellerie. Pourquoi ? Pour une raison très simple. L'hôtellerie est en concurrence avec l'extérieur. Le bâtiment, il y a une concurrence intérieure. Par définition.
Vous pensez que la société qui construit l'aéroport, qui a été choisie par la société de l'aéroport, c'est pas une société martiniquaise, monsieur Mopé, c'est une société italienne.
Je vais vous expliquer pourquoi ça n'a pas d'importance. Qui détient la société ? Les hôtels étaient détenus autrefois par des grands groupes. Ils ont tous fermé, l'accord, tous sont partis. C'est pas qui détient le capital de l'entreprise, c'est où elle travaille. Même si l'entreprise est allemande, italienne, turque, peu importe. Si elle est soumise aux lois qui s'appliquent à la Martinique, si elle est soumise au contexte social qui est celui de la Martinique, elle est dans un contexte concurrentiel qui est celui des entreprises qui exercent en Martinique. La différence, encore une fois, avec le tourisme, c'est que le tourisme est un marché d'exportation. Le marché du tourisme, c'est un marché international. Par définition, sauf ceux des touristes qui sont martiniquais, il y en a quelques-uns, les touristes sont des gens qui viennent de l'extérieur. Et quand vous êtes à l'extérieur, vous interrogez sur le fait de savoir où vous irez.
80% de notre clientèle vient de France. C'est l'international ?
C'est l'international. Même s'ils viennent de France, même s'ils viennent de Guadeloupe, c'est l'international. En termes économiques, c'est l'international. Les Français qui sont en métropole, ils peuvent aller en Espagne, ils peuvent aller en Méditerranée, ils peuvent aller, ce qu'ils font d'ailleurs, s'en privent pas, à Santo Domingo, etc. Donc, quand ils sont dans leur position d'acheteur, ils regardent le marché du monde. Alors que, quand vous construisez une maison, vous la construisez à Nice, à Tourcoing ou en Martinique. Et vous interrogerez nécessairement des gens qui sont capables de vous construire la maison à Nice, à Tourcoing ou en Martinique. Ce n'est donc pas la même chose. Et d'ailleurs, c'est fondamental. Il faut bien comprendre ça. J'insiste là-dessus et vos questions sont très pertinentes. C'est exactement l'analyse que font les pays voisins de la Caraïbe. Ils ont défini ce qu'ils appellent l'économie interne et l'économie externe. Il y a les activités qui sont liées au marché intérieur et les activités qui sont sur le marché extérieur. L'extérieur, c'est quoi ? C'est les marchandises qu'on exporte, c'est le tourisme. Ça peut être les services que l'on vend à l'étranger. C'est tout ce que l'on vend à l'extérieur. Et ce que l'on vend à l'extérieur, n'importe quel pays en dehors de la Martinique est susceptible de le fournir. Par contre, acheter votre essence pour votre voiture, faire vos courses pour manger, faire construire votre maison, vous n'avez pas le choix. Nécessairement, c'est en Martinique que ça va se faire.
Alors, Yann Monpézier, vous avez tout à fait raison dans le concept. Mais moi, ce que je veux surtout faire ressortir dans mes questions, c'est surtout de se poser la question globale, de savoir si ce n'est pas sur l'ensemble des services qu'il faille porter une modification. Pourquoi ? J'ai pris l'exemple du BTP, sur lequel vous me dites effectivement le logement il est localisé par exemple à la Martinique. Mais vous n'avez pas ignoré que ce qui a impulsé le bâtiment à la Martinique, c'est la période de défiscalisation qu'il a même mis en surchauffe et dont les défiscalisateurs n'étaient pas martiniquais, c'est-à-dire en fait dont les clients finaux étaient des gens qui viennent aussi en vacances à la Martinique et qui se retrouvent dans le même système. Alors, ma question est de savoir, est-ce que ce que vous dites sur la question du tourisme n'est pas aussi vrai sur tous les services et à partir de ce moment-là, de comprendre ce qu'il faille faire pour que les entreprises retrouvent de la compétitivité. Alors, sur ce point, j'aimerais aussi vous introduire une nouvelle notion qui, moi, m'interpelle, c'est de savoir est-ce que, je sais que je vais mettre une bombe quand je dis ça, mais est-ce que les salaires ne sont pas trop bas en Martinique ?
Sûrement pas. Les salaires ne sont pas trop bas. D'abord, il y a le même salaire minimum qu'en métropole. Ensuite, les salaires de la fonction publique et parapublique est 40% plus élevé. Et enfin, très souvent dans les entreprises, Les salaires sont au minimum équivalents, voire supérieurs. Nous avons fait faire une étude dans le tourisme. Les salaires dans l'hôtellerie en Martinique sont 30% supérieurs à ceux qui sont en métropole en moyenne.
Il y a plus de personnes qui sont SMIC en Martinique qu'en France, proportionnellement.
C'est possible, c'est lié sans doute à la nature des activités qui sont les nôtres et les secteurs d'activité sur lesquels nous nous trouvons, contrairement à la moyenne nationale, sont des secteurs d'activité où effectivement il y a une représentation plus importante puisqu'on est sur du commerce. Très souvent les employés des grandes surfaces sont au SMIC ou autour du SMIC. Mais encore une fois, les fondements de l'économie de la Martinique, c'est simple pour moi. Pour moi, c'est très simple. Vous me parlez de services. Tous les services qui sont confrontés à une concurrence extérieure doivent faire l'approche d'une particulière, d'une appréciation particulière. Quand vous avez des services, votre expert comptable, vous allez le payer le même prix qu'en métropole et vous n'irez pas le chercher à Barbade où il vous a coûté la moitié du prix. Encore que ça viendra peut-être un jour avec les systèmes d'information actuels. Mais la réalité, mais ce sera illégal parce que vous l'avez pas prouvé. Mais la réalité, encore une fois, c'est que ou bien vous avez des produits que vous commercialisez dans le cadre de l'économie intérieure, dans ce marché protégé, finalement. Ou bien vous vendez des produits qui sont sur le marché international, donc soumis à la concurrence internationale. Et dans ce cas-là, s'il n'y a pas des dispositifs qui viennent muscler vos entreprises en raison des problèmes liés à l'économie d'échelle, aux économies d'échelle, à la taille du marché, etc., vos entreprises sont dans une situation de handicap structurel qui les condamne.
Très bien. Alors, deuxième partie de cet entretien de ce matin avec l'ensemble de vos invités, vous avez eu des perspectives politiques. Vous n'avez pas supprimé ni effacé le fait que vous pourriez être soit président à Saint-Joseph, dans le cas d'une demande et d'un combat à faire, ni même d'être présent à Fort-de-France. Je vous avoue n'avoir pas très bien compris ce positionnement, d'autant qu'il me semblait que votre rendez-vous était l'année d'après.
C'est très clair que
je m'inscris. Enfin, je veux dire, vous n'allez pas aller pour démissionner un an après, Yann, mon plaisir.
Il est très clair que je m'inscris dans la perspective des élections de la CTM. Mais quelquefois, dans la vie politique, il peut être nécessaire qu'il y ait des étapes. Il peut être nécessaire aussi que l'on ressente l'ardente nécessité de s'impliquer pour défendre l'intérêt général.
Vous voulez dire qu'il peut être intéressant pour vous d'aller compter vos voix à Fort-de-France ?
Non, moi, Fort-de-France, Fort-de-France, c'est une rumeur qui circule depuis quelque temps. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne l'alimente pas. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne peux pas non plus empêcher que l'on évoque ceci ou cela. Mais je ne veux pas non plus. Il est important pour un homme politique s'arrêter à aucune autre considération que celle de savoir si son engagement, selon ses convictions, peut servir l'intérêt général. Et c'est ce que j'ai voulu dire. Si j'ai la conviction qu'un engagement de quelque nature qu'il soit est susceptible, selon moi, de servir l'intérêt général, quels que soient les risques politiques, je suis prêt à les prendre. Dès que j'ai l'impression que ça peut servir mes convictions, et donc servir l'intérêt général, puisque mes convictions visent à faire en sorte que les choses aillent mieux pour tout le monde.
Vous faites de belles pirouettes, hein. Alors, je vous propose qu'on en fasse une dernière. Parce que quand je vous ai écouté ce matin, et vous avez dû remarquer que même si on est arrivé en retard, avec la modernité, on peut suivre les choses par Internet. Ça veut dire que vous étiez en Facebook Live, on vous écoutait. Je ne vous ai pas entendu, ni l'un, ni l'autre, ni l'une, ni l'autre, avoir un seul grief vis-à-vis de l'action de la CTM. Est-ce qu'on peut imaginer, toujours dans cette perspective, que vous arriviez sur la même rive que, disons, M. Alfred Marie-Jeanne et son équipe restante dans le cas d'un prochain combat en 2021. Autrement dit, est-ce qu'on pourrait imaginer une liste véritable, Yann Monplaisir, composée de... Est-ce que le grand semblé pour Mbappé y a en chance moins les éléments niloristes et autres, il est revu de ce qu'au fait pourrait être la liste présente aux prochaines élections 2021.
Je vous ai écouté avec attention. Tout ça, ce sont
des supputations, vous allez me dire.
Ce sont pas seulement des supputations, ce sont des questions que les gens peuvent se poser. Mais c'est de la petite politique. Excusez-moi, mais votre question, les gens se la posent. Moi, c'est pas comme ça que je conçois la politique. Je suis engagé dans le cadre d'un accord. Nous sommes les uns et les autres en train de dérouler un projet que nous avons partagé, qui n'est pas le projet ni de l'un ni de l'autre, mais qui est un projet fondu, entre guillemets, des uns et des autres, qui se sont mis ensemble pour faire quelque chose ensemble. Pour l'instant, je n'ai pas vu de manquement, je n'ai pas de raison de faire défaut non plus. Et vous me demandez, est-ce que je vais arriver sur la rive ? J'espère bien arriver sur la rive. Peut-être que j'aurais espéré, selon la vision que j'ai des choses et la manière dont, à titre personnel, si nous avions eu plus de poids et que nous avions eu les rênes, peut-être que je peux penser que j'aurais été encore plus loin sur la rive. Mais ça ne m'amène pas pour autant à mettre mon gilet de sauvetage et à sauter au milieu de la traversée, parce que je suis convaincu que nous mènerons le bateau à bon port, je suis convaincu que nous le ferons ensemble, et je suis convaincu que nous allons dans la bonne direction. Après, oui, peut-être que je me dis, mais ce serait un peu prétentieux de ma part de l'affirmer, que si j'avais été celui qui conduit réellement la politique, j'aurais peut-être été plus vite, mais bon, ça, chacun appréciera.
Très bien. Bon, ben écoutez, ce sera notre dernier mot pour cet entretien d'aujourd'hui. Vous voyez que chaque fois nous essayons de rentrer dans le fond du sujet. Je crois que c'est important. Yann Monplaisir, en 1 minute 30, on ne peut pas tout dire en 1 minute 30. Et il faut prendre le temps aujourd'hui de donner du temps aux hommes politiques de s'exprimer pour qu'on comprenne où ils vont et où ils veulent nous mener. Merci de cet entretien.
Merci de cet entretien. Je partage votre point de vue. Il faut prendre le temps. Et il faut effectivement se poser des questions de fond. Malheureusement, on surfe souvent sur la vie politique martiniquaise. On ne va pas assez au fond des choses, on n'examine pas assez les choses et on se contente des apparences. Moi, je souhaite que les Martiniquais aillent au fond et vous nous aidez à faire en sorte qu'ils mènent cette réflexion. Donc je vous remercie.